Il est 9h47, il se joint à nous à chaque samedi pour une... Ben en fait, c'est pas tout à fait une chronique économique parce qu'on répond véritablement à des questions d'auditeurs, François.
Oui, c'est plus finances personnelles.
Ben, c'est les finances personnelles, puis des préoccupations, puis il y a toutes sortes d'affaires. Les gens donc t'écrivent, François, au françois.gagnon@98.5fm.ca. On va essayer de répondre à toutes vos questions au cours de l'été. Il y en a souvent qui reviennent, qui concernent les pensions alimentaires, puis là, on va vraiment régler le cas des pensions en parlant des mythes et des réalités.
Tout à fait. Et depuis le jugement, il y a 6 ans, d'Éric Contlola, tu te souviens de
ben
ce
oui,
procès-là?
Ben oui,
hein,
ben
avec
oui.
France Goldwater, qui était l'avocate à prime abord de Lola. Parce que le problème à l'époque, c'est que c'est un couple qui était conjoint de fait. C'était pas marié. Alors, est-ce qu'elle avait le droit à la pension alimentaire? Malheureusement, au Québec, on est la seule province avec le Code civil qu'on est en train de réviser. D'ailleurs, il y a des consultations qui sont en cours présentement. Et malheureusement, au Québec, les conjoints de fait n'ont pas le droit à la pension alimentaire. Oui. Alors, si vous êtes conjoint de fait, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit à la pension alimentaire, point à la ligne. Malheureusement, c'est la loi. Et c'est ça qu'on est en train de regarder. Et les conjoints aussi, il faut faire attention, ne sont pas automatiquement considérés comme mariés après un certain temps et n'ont pas les mêmes droits. C'est ça le Code civil ici au Québec et c'est ça qu'on va tenter de réviser. Mais il va falloir aller un petit peu plus loin. Il va falloir ajouter un petit peu plus de fiscalité là-dedans.
Et il y a encore aussi, François, des gens qui pensent que parce qu'ils ont un enfant avec un conjoint de fait, que ça change toutes les données, puis c'est pas le cas du tout. Là.
La pension alimentaire sera versée à l'enfant et non pas à la conjointe. Si vous êtes conjoint de fait, pas de pension alimentaire. Point à la ligne, mais pour l'enfant, oui. Là, c'est différent. Alors, dans le cas de Lola, Éric contre Lola, les enfants avaient le droit à une pension alimentaire qui était de 50 000 $, je pense, mais la conjointe, elle en voulait 56 000, puis en plus avoir droit au patrimoine familial à la hauteur de 50 millions. Et la loi au Québec fait en sorte que t'as pas le droit au patrimoine familial, t'as pas le droit non plus, à moins d'y avoir contribué, bien sûr, mais ça, c'est là qu'il est important d'avoir des papiers de signer entre conjoints. Si vous êtes conjoint de fait, là, allez chez le notaire, faites-vous un bon contrat en bonne et due forme, et là, ça va éviter beaucoup de problèmes. Pas de contrat, pas de sous. C'est clair et net comme ça.
Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce contrat-là, par exemple, François?
Ben, par exemple, je sais pas, moi, la séparation des biens. Vous achetez une maison ensemble, si c'est strictement au nom d'un des deux conjoints, ça va être difficile de prouver ensuite que vous avez contribué à l'intérieur de cette maison-là si vous n'êtes pas marié, parce que ici on a la séparation du patrimoine à 50-50 habituellement lorsque vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, ben ça n'existe pas ça non plus. Alors, il faut faire extrêmement attention à ce moment-là. Si vous n'avez pas de contrat notarié pour où on dit, bon, ben par exemple, au moment de la séparation, si la conjointe ne travaille pas, par exemple, et qu'elle élève ses enfants, elle voudra fort probablement se protéger à l'intérieur du contrat en disant, bon, ben garde, c'est parce que moi, j'ai pas d'argent et il va falloir que tu me donnes des sous au moment où, si jamais il devait y avoir... C'est bien plate à dire, là, au moment où tu commences une relation ensemble, de dire, ben garde, faut prévoir les sorties. Ben oui, il faut les prévoir les sorties, malheureusement.
Il y a quelqu'un qui m'écrit sur la messagerie texte concernant les pensions, qui me demande si quelqu'un n'avait pas demandé la pension alimentaire après une séparation ou un divorce et quelques années plus tard voulait la revoir. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est rétroactif?
Ben, rétroactif, je sais pas, ça serait la cour d'en décider, là, parce que habituellement, tu le demandes au moment de la séparation. C'est d'ailleurs la grosse guerre entre... c'est là que tous les débats et les conflits arrivent au moment d'une séparation, c'est la fameuse pension alimentaire. Alors, normalement, au moment de la séparation, si vous étiez marié, là, je sais pas quel est son cas exactement, cette personne-là, mais si elle était mariée, qu'elle travaillait pas, est-ce qu'elle voulait avoir une pension alimentaire, puis ça a pris quelques années avant de la demander... Peut-être pourrait-elle demander une pension alimentaire et que la Cour lui accordera, mais ça, c'est une autre paire de manches. Pour les enfants, ben aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de ne pas passer outre, c'est-à-dire que il y a une pension alimentaire qui est décrétée par la loi. Parfois, c'est plus que ce que la loi exige, mais la loi a un seuil minimum et ce sont le revenu des deux conjoints. Est-ce que la pension alimentaire se termine au moment où les enfants atteignent l'âge de 18 ans. Ça, c'est une autre histoire là, que j'entends régulièrement au moment où on fait les déclarations de revenus. Bon, mon enfant, il est à l'école, il vient d'avoir 18 ans, je ne paye plus ma pension alimentaire.
Non, c'est non. Tant que l'enfant est aux études, hein, c'est ça?
Ben, tant qu'il a besoin de ses parents. Point à la ligne.
Mais s'il a besoin de ses parents à 40?
Regarde, c'est peut-être ça aussi que la réforme de fiscalité ouais. devrait apporter, parce que on est à l'époque des Tanguy, des enfants de 24 ans qui sont encore aux études, qui sont chez les parents. Vous avez l'obligation alimentaire, l'obligation de vous occuper de votre enfant, même s'il a 24 ans. Et en même temps, vous n'avez pas le droit d'avoir de déduction parce qu'il a plus que 18 ans. Alors donc, ça, c'est le genre de réforme qu'il faudra regarder au niveau fiscal. Mais un enfant qui a atteint l'âge de 18 ans, non, la pension alimentaire ne se termine pas là. Un parent qui a la garde partagée, doit-il quand même payer une pension alimentaire? Fort probablement aussi. Ça va dépendre aussi des revenus des deux ex-conjoints. Et l'autre, si je déclare faillite, est-ce que je dois payer ma pension alimentaire? Oui, malheureusement.
Oui.
Oui. La pension alimentaire ne fait pas partie des obligations qui sont écartées au moment où on déclare faillite. Alors, vous avez, si vous faites faillite, puis que vous continuez d'être marié, par exemple, ou vous continuez d'être en couple avec votre conjoint, que vous avez des enfants, vous avez l'obligation de vous occuper de vos enfants pareil, mais c'est la même chose. La pension alimentaire ne fait pas partie de ça. Est-ce que la pension alimentaire est imposable pour les enfants? Non. Depuis déjà plusieurs années, la loi a été abrogée et la pension alimentaire qui est versée pour les enfants n'est pas imposable. Par contre, si on vous impose une pension alimentaire pour votre conjoint ou conjointe et pour la conjointe et la conjointe, si vous étiez marié, bien sûr, je le répète encore une fois, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit à ça, oui, celle-là devient imposable. Et le conjoint qui verse la pension alimentaire aura droit donc à une déduction fiscale de ce côté-là.
Bon, François...
Oui,
t'allais dire
questions.
Quoi?
J'allais dire, on va répondre aux petites questions si tu veux.
Ben oui, ben on a le temps d'en faire une.
On n'a rien que le temps. Oui,
ben oui, je sais, on en fera d'autres la semaine prochaine, mais il y a Josée qui nous demande, elle n'a pas l'habitude de transiger par téléphone et encore moins par Internet, puis elle veut savoir si c'est sécuritaire de faire affaire avec Épargne Placement Québec, parce que c'est bizarre, il faut qu'elle retourne un spécimen de chèque. Elle s'inquiète un petit peu de la façon de faire. Là.
Oui, c'est pas, malheureusement, c'est pas transparent pour tout le monde, parce que majorité des transactions vont se faire par Internet. Et c'est peut-être une chose que les gens n'aiment pas nécessairement faire des transactions par Internet, mais soyez assurés que c'est sécuritaire. Épargne Placement Québec, même s'il n'y a pas de plafond de 100 000 $ pour vos épargnes, il n'a pas de plafond pour autant pour le capital et pour les intérêts. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui garantit. Et avant que le gouvernement ne fasse faillite, je pense pas que ça va arriver demain. Alors donc, c'est ultra sécuritaire de faire affaire avec Épargne Placement Québec. Elle qui me dit qu'elle a à peine à sa banque à 0,8% de frais d'intérêt. On a presque 2% chez Épargne Placement Québec. Sur 10 ans, ça monte jusqu'à 3,1%. Alors donc, oui, c'est ultra sécuritaire.
Parce que confiance. Elle, ce qu'elle disait, c'est que tout se fait verbalement, il n'y a aucune trace écrite.
Ah non, il y a des traces écrites. Okay, oui, il y a tout à fait. Et à chaque fois qu'on téléphone, c'est enregistré,
c'est juste qu'elle ne les voit pas, c'est ça.
Oui, ben c'est parce qu'elle ne les voit pas nécessairement. Alors, il faut s'ouvrir un compte en ligne. Et si vous avez de la difficulté, appelez Épargne Placement Québec, puis ils vont vous aider. Il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup, François. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Il est 9h56, au retour, les informations.